Le journal présenté par Thomas Berbera.
Bonjour, le nouveau centre de recherche et de conservation sorti de terre à Porrentruy a été baptisé hier soir. L'occasion de visiter les nouveaux locaux. Reportage à écouter dans ce journal. Plus de 11 000 morceaux de musique populaire suisse, c'est ce qu'a récolté durant sa vie l'ethnomusicologue Annie Christen. Un événement lui rend hommage ce week-end à Delémont. Le HC Ajoie n'y est pas arrivé. Les hockeyeurs jurassiens ont subi la loi de Davos hier soir à domicile. Défaite 5-2. Météo après quelques nuages en matinée, l'après-midi devrait être bien dégagé et ensoleillé. Le thermomètre ne dépassera pas les 4 degrés dans la région. C'est un bijou qui est à visiter tout ce week-end. Le centre de recherche et de conservation a été inauguré hier soir. Le bâtiment se trouve à côté de la Villa Beuclair, le musée de Jurassica à Porrentruy. L'institution partage d'ailleurs ses nouveaux locaux avec la section d'archéologie et de la paléontologie du canton du Jura. Ainsi, les étages supérieurs sont lumineux et disposent de belles installations pour les missions de ces deux locataires. C'est la partie conservation qui nous intéresse ce midi avec la visite du sous-sol, un lieu qui ne devrait que rarement accueillir des visiteurs. Reportage en compagnie de l'archéologue cantonale Céline Robert Charulinder.
Bonjour.
Bonjour. Vous et votre équipe, ça fait en gros 6 mois que vous êtes dans ce bâtiment, c'est ça, hein ?
Tout à fait, à peu près 6 mois qu'on a emménagé dans ce beau bâtiment. On est très heureux parce qu'on commence de trouver nos marques. On commence d'y voir plus clair aussi avec nos collections parce que c'était pas évident d'amener des centaines de milliers de pièces dans un nouvel endroit et puis dans des nouveaux dépôts. Mais au fur et à mesure, on va les classer et puis on va les apprivoiser, leur nouvel emplacement aussi. Et pour nous, c'est un sacré atout.
Donc là, on s'en va au sous-sol, un endroit qu'on verra jamais en fait.
On s'en va au sous-sol qui est effectivement sécurisé pour des raisons de pièces patrimoniales d'importance. Et on va pénétrer effectivement dans les dépôts que les gens ne verront pas.
Donc là, effectivement, ce n'est plus lumineux, ce n'est plus très accueillant, mais c'est le but, en fait.
C'est ça, c'est pas très lumineux, c'est des dépôts, ils sont au sous-sol, assez spartiates, effectivement. Humidité, température contrôlée, collection les plus fragiles, finalement, soit préservées.
On se trouve devant des pièces, collection 2, collection 4.
Ici, on a les collections archéologiques. Ici, on a souhaité mettre des armoires vitrées qui serviront pour le grand public. On a toujours cette volonté de pouvoir montrer nos découvertes au grand public. Avant, c'était compliqué parce que les locaux ne s'y prêtaient pas. Mais maintenant, avec ces dépôts vitrés, on pourra mettre en place les plus belles pièces, finalement, de nos collections. On pourra les changer aussi en fonction de l'actualité scientifique, de l'actualité de terrain.
Alors, si je m'approche de celui qui m'attire, on dirait un crâne avec traces de blessures au Moyen-Âge. Sympa ?
Oui, c'est un crâne qui a été trouvé sur les fouilles autoroutières, les fouilles A16 de Chevenay. Le crâne, comme vous le voyez, présente un gros trou sur le sommet. La personne, en fait, a été assassinée. En fait, elle a reçu un grand coup d'une arme tranchante qui lui a enlevé un bout du crâne et elle est décédée des suites de ses blessures.
Cette mise en valeur, ça, c'est quelque chose qui est encore peu présente ou bien ?
C'est-à-dire qu'il y a un sens scientifique à faire ces recherches, il y a un sens aussi historique, parce qu'on étoffe toujours les connaissances au niveau scolaire, par exemple. Quand on parle des périodes les plus anciennes, finalement, il n'y a pas d'écrits qui peuvent nous raconter ce qui se passait. Donc c'est par les fouilles archéologiques qu'on arrive à compléter au fur et à mesure finalement ce qui s'est passé sur notre territoire. Et puis, mais après, ça peut rester dans un cercle très restreint de scientifiques si on n'y prend pas garde. Mais notre volonté, c'est justement de ne pas s'arrêter là, de faire une restitution au grand public des découvertes qui sont faites chez nous, et puis de les mettre en valeur, de simplifier les textes, de raconter finalement l'histoire du peuplement jurassien, et que ça soit accessible à tout un chacun.
On ressort par où ?
On peut aller par là-bas.
L'archéologue cantonal Céline Robert Charulinder répondait à Nancy Chapuis. Une vidéo est à retrouver sur rfj.ch et le public est invité à venir découvrir le CRC aujourd'hui et demain de 10h à 17h. Plusieurs activités sont au programme. L'école jurassienne et conservatoire de musique résonne ce week-end au son de la musique populaire suisse. Le JCM accueille à Delémont une manifestation en l'honneur de l'ethnomusicologue alémanique Annie Christen, manifestation mise sur pied par la Maison de la musique populaire. Ce centre d'importance nationale situé à Altdorf rassemble tout ce qui se fait en Suisse en termes de musique traditionnelle et populaire. Et au programme du week-end, cours de musique populaire et concerts, en partie basés donc sur les travaux d'Annie Christen. Nikita Pfister, spécialiste spécialiste de la musique populaire suisse, explique l'importance de cette femme décédée en 1976.
Annie Christen a collecté plus de 11 000 morceaux partout en Suisse, particulièrement en Suisse allemande. Elle a malheureusement pas beaucoup été en Suisse romande. Elle a permis de conserver tout un répertoire qui aurait été perdu autrement, puis qui donne une image de cette musique qui est un petit peu différente de cette musique champêtre qu'on entend d'habitude.
Et si vous souhaitez écouter ce type de musique populaire un peu oubliée du grand public, rendez-vous ce soir à 20h à l'EJCMA de Lémont pour les concerts de Folaton et Carac. Entrée libre, collecte à la sortie. Un accident de la circulation s'est produit hier vers 15h30 en Ajoie. Un automobiliste qui circulait sur la route entre Porrentruy et Bressaucourt a dû effectuer un freinage d'urgence pour une raison que l'enquête devra déterminer. Le véhicule qui le suivait n'a pas pu freiner à temps et éviter la collision, selon un communiqué de la police cantonale. Blessée, la passagère d'un des véhicules a été prise en charge par le service ambulancier et transportée à l'hôpital. La qualité de la pierre de la tour de Moron est pointée du doigt par les experts, une critique qu'on retrouve dans le rapport commandé par le ministère public du Jura bernois. Le document s'interroge sur plusieurs points concernant l'effondrement de la tour. Le quotidien jurassien a pu consulter ces informations. On fait le point avec Josette Sédoux.
La pierre utilisée pour les marches avait une résistance à la traction trop variable. Voilà ce que dit le rapport d'experts effectué sur demande du ministère public du Jura bernois. Le matériau était donc inadapté pour une telle structure en escalier. Des micro-fissures seraient apparues sous l'effet du gel, de l'eau et des charges, ce qui a mené à un effondrement en cascade. Information importante, le fournisseur connaissait depuis 2012 les faiblesses de la pierre, mais n'a pas alerté les acteurs du projet, a-t-on appris. Après l'effondrement, la fondation de la tour de Moron découvre que le marbrier a continué à renforcer certaines marches avec des tiges métalliques à l'intérieur des blocs contre les recommandations. La justice considère que la fondation était au courant de cette prise de risque. Après 36 mois d'enquête, 4 des 6 prévenus, dont le marbrier, sont libérés de leur charge pour prescription. La fondation conteste cette décision. Selon elle, le marbrier n'a jamais informé officiellement le maître d'ouvrage de ses pratiques. En somme, l'effondrement repose sur une chaîne de responsabilité où chacun se rejette la faute. Le fournisseur qui n'a pas prévenu, le marbrier qui a renforcé en cachette certaines marches et la fondation qui aurait pu détecter plus tôt les signes de faiblesse.
Et la tour restera dans le même état tant que la justice n'aura pas rendu son verdict. Les bracelets électroniques sont de plus en plus utilisés en Suisse pour désengorger les prisons. Leur surveillance est cependant limitée aux horaires de bureau dans la plupart des cantons romands, selon une récente information de la RTS. Les cantons soulignent que cette surveillance limitée à un horaire précis ne pose pas de problème. Les porteurs de bracelets électroniques ne sont pas des cas graves et il est dans leur intérêt de respecter les règles imposées. À l'étranger, le Hamas a libéré aujourd'hui 3 otages israéliens dans la bande de Gaza. Après 500 jours de captivité, les 3 hommes sont montés dans des véhicules du Comité international de la Croix-Rouge avant d'être remis à l'armée israélienne. Il s'agit du 6e échange contre des détenus palestiniens depuis le début de la trêve qui a frôlé cette semaine le point de rupture. Et une note musicale pour finir, les 40e victoires de la musique ont décerné hier soir leur récompense. Le rappeur Gims a été couronné meilleur artiste masculin. Zao de Sagazan a reçu la récompense de meilleure artiste féminine. A noter également le titre de Révélation scène décerné à l'artiste franco-suisse Yoa, dont le père est jurassien.
Ben voilà, 12h24.
RFJ Sport.
Camille Rast dominante sur le slalom des mondiaux de ski alpin à Salbach, Corentin Reyes.
Et oui, la Valaisanne a survolé la première manche ce matin en Autriche. Elle compte 58 centièmes d'avance sur l'Autrichienne Katharina Linsberger. L'Américaine Michaela Schifrin complète le podium 8 petits centièmes devant Wendy Holdener en embuscade pour une médaille. Mélanie Meillard pointe elle au 10e rang à près de 2 secondes du podium. Le départ de la deuxième manche sera donné à 13h15. Une nouvelle désillusion pour le HC Ajoie. Après un match à oublier à Zurich mercredi, les hockeyeurs jurassiens se sont inclinés hier devant Davos 5-2 à Porrentruy. Ils ont été dominés par une formation qui a mis beaucoup de pression. Mais les Jaunes et Noirs devront rapidement se remobiliser puisqu'ils effectuent aujourd'hui le déplacement chez Ambri Piotta. Un constat s'impose, le HCA n'a plus le niveau qui était le sien avant la trêve internationale. L'auteur du deuxième but à Joulot ne le conteste pas, Lilian Garessus.
Oui, c'est possible. On a enchaîné ces trois victoires juste avant la pause. Et elle fait du bien pour récupérer physiquement pour cette dernière ligne droite de la saison. Mais c'est vrai que ça nous a coupé dans notre élan. On a ces trois victoires, ça faisait du bien, on enchaînait. Et c'est vrai que ça a un peu coupé ce momentum. Mais on va essayer de le récupérer directement demain à Ambry.
Ça veut dire quoi? C'est l'intensité qui baisse? Il faut la remonter? C'est des entraînements qui ne sont pas assez durs? Comment on peut expliquer?
Mais c'est plein de petites choses. Et puis quand on a une pause comme ça, on essaie aussi de déconnecter du hockey pour se remettre à jour. Et puis c'est vrai que peut-être que, je sais pas, on a fait la pause comme on pensait que c'était le mieux, mais finalement peut-être c'était pas le cas. Mais c'est à nous joueurs de prendre la responsabilité puis de jouer comme on peut jouer.
Contre Ambry, qu'est-ce qui va se faire de mieux pour faire un match que vous aurez vraiment à cœur de remporter?
Moins de pénalités et puis donner son 100% chaque... On est une équipe qui doit, si on veut gagner, on doit plus batailler que l'adversaire, aller plus agressif, patiner plus, et puis c'est comme ça qu'on va aller gagner le match à Ambry demain.
Lilian Garessu au micro de Régis Cerf. Ambry à Joie, un duel à vivre en direct sur RFJ dès 19h30 en compagnie de Mathieu Schaffner. Le HC Franche-Montagne veut terminer sur une note positive. Les Tannions affrontent Langenthal à 17h15 à Seignelay-Gier pour le dernier match de saison régulière de Mayo Hockey League. Ils sont déjà assurés de disputer les pré-playoffs, mais la rencontre de ce soir reste importante puisqu'elle va définir leur adversaire pour cette série. Le HC Delémont-Vallée débute sa lutte pour le maintien. Les Jurassiens accueillent Vallée de Joux à 17h30 à l'occasion du tour de relégation de Première Ligue. Ils vont tout faire pour l'emporter et se donner confiance face au dernier du classement de la saison régulière. L'heure de la reprise a sonné pour l'ESR Delémont. Les footballeurs jurassiens se déplacent sur la pelouse de Zurich M21 ce soir à 18h dans le championnat de Promotion League. Ils vont vouloir confirmer leur bonne préparation hivernale avec une victoire qui leur permettrait de s'éloigner de la zone rouge. Et c'est également le retour aux affaires pour le FC Basse-Cour. Les Vadais reprennent le championnat de Première Ligue cet après-midi à 16h30 à Langenthal. Ils vont chercher à rester au contact du premier wagon dans un groupe très disputé. Yannick Sinner suspendu 3 mois. Le joueur de tennis italien, récent vainqueur de l'Open d'Australie, a trouvé un accord avec l'Agence mondiale antidopage selon une annonce faite ce matin. Cette décision de suspension tombe près d'un an après que le numéro 1 mondial ait été contrôlé positif au Clostebol, une substance interdite à laquelle il aurait été exposé de manière non intentionnelle. Yannick Sinner manquera donc 3 mois de compétition et plusieurs Masters 1000, mais aucun tournoi du Grand Chelem.